Albert Londres chez les fous. Chapitre 6. Une nuit. Le mystère humain qu'est la folie s'épaissit dans les bâtiments pendant la nuit. L'étonnement qui, comme une auréole, ne cesse de nimber le spectateur de la vie des fous, grandit alors autour de lui jusqu'à l'infini. Les asiles deviennent alors des cloîtres diaboliques. Il était 11 heures du soir quand je m'amenais dans la grille de la maison départementale de cette ville du sud. Le portier dormait. C'était bien l'heure. Le directeur ronflait, heureusement. Seule une intelligente personne, comprenant les nécessités du journalisme contemporain, avait les deux yeux grands ouverts. Le service de garde ne manque pas, dans certains cas, de présenter quelques lacunes regrettables, était-il écrit dans le dernier rapport officiel. Évidemment, tout reposait dans la cage. Aucun pépiement. Nous nous promenions, pour l'heure, à travers les cours désertes. C'est à minuit que l'on perçoit les premiers échos du carnaval qui recommence. Mais il est des dortoirs où personne ne se réveille, où personne ne se réveille jamais, ni le jour, ni la nuit. La salle de la paille, par exemple. Salle de la paille ? Parce que la literie est remplacée par la paille. Les lits sont les cercueils sans couvercle. Quand l'occupant meurt, on n'aurait pas besoin de le déranger, si l'on voulait. On clouerait dessus la quatrième planche. Il serait tout de suite chez lui. C'est le lot des démons séniles. Les familles se débarrassent volontiers de ces vieillards. Les familles riches aussi. Le jour, les mouches légères chatouillent en tas l'épiderme de ces immobilisés. La nuit, les mouches étant couchées, il ne se passe plus rien. Un décès, parfois, en silence. On ne s'en aperçoit qu'au matin. Une odeur épouvantable monte constamment, comme d'un fumier humain. Requiescat in pace. Nous pénétrons dans le dortoir des tranquilles, côté des femmes. Nous avons à peine poussé la porte que deux fantômes à l'oreille fine, sortant chacun d'un lit déjà occupé, se hâtent de regagner le leur. Tout de suite, une vieille nous fait signe de nous approcher d'elle. Elle nous demande de coller notre oreille contre le mur, où déjà est collée la sienne. Tout bas, elle nous dit « Le garde champêtre qui est caché dans le mur. »« Que vous raconte-t-il, Madame Emmelin ?»« Il me parle. Écoutez. » Madame Emmelin remue distinctement les lèvres, répétant mot à mot, mais uniquement pour elle seule, ce que lui dit le garde champêtre. C'est une hallucinée. Passons à une autre. Que faites-vous là assis sur votre lit, Madame Garçon ? J'écoute mon mari qui me dit « Va te noyer, vilaine. À l'eau, à la rivière. » « Dormez. » « Oui, monsieur. Avançons. » Demandez à Madame Coste avec qui elle couche, dit cette dame. Madame Coste a entendu. Elle plonge la main sous son traversin et l'en retire deux moineaux. « Celui-ci est Charles, » dit Petite Gueule. « L'autre est Victor, comme Hugo. C'est le chanteur. » Les oiseaux la regardent avec amitié et volent se poser sur le cou de la folle. Ces oiseaux ne jugent pas Madame Coste dangereuse pour la société. Beaucoup de ces dames dorment et celles qui veillent ne font pas de bruit. Discrètement, celle-là demande « Que comptez-vous faire de moi ? Me couper le cou, me pendre ou me sauver ?»« Vous sauver ? Alors, où est l'échelle de soie ?» Nous sortons. L'occupante du lit du fond porte la main à sa tempe droite. « La fille de la Mauricière vous fait le salut militaire, » dit-elle. « À vos ordres !» Minuit passé, nous changeons de quartier. Nous voici maintenant dans la cour de la cinquième. Quel chahut déjà au dortoir. Des protestations, des cris, des disputes. Une exclamation venant de la sœur de garde sans doute. « Fille du diable !»« Ah ! Fille du diable !» Il est des écuries qui possèdent l'électricité. Les trois quarts de ces maisons sont à la chandelle. Les asiles avancés ont déjà découvert la lampe à pétrole. Un jour, que je me mêlais de ce qui ne me regarde pas, j'ai signalé à un directeur l'existence du verre de lampe qui empêche la mèche de fumer. « Cela doit être bien commode, » dit-il. « Je vais ordonner des recherches. » Comme veilleuse, des boîtes de sardines fixées au mur. Ailleurs, le gaz. Les robinets sont à la portée du malade, pour qu'il puisse jouer si le cœur lui en dit. Ici, c'était au pétrole et à la boîte de sardines. Le spectacle de cette salle dont la pénombre dépassait sur le coup d'une heure du matin les frontières de la vraisemblance. On déchemise d'une laideur administrative 50 furies à qui l'on devrait couper les cheveux à la mode, ce qui éviterait la valse serpentine des mèches crasseuses, se livrer au cri, à la course, au 100 pas, à la lutte, l'extase et aux poses plastiques. « Fille du diable !» cria la sœur. « Couchez-vous !» Et les folles répondaient à la sainte femme. « Va te coucher avec ton bon Dieu, tu le fais attendre. »« Oh, plume, fille du ciel, ouste !» Celle-ci, à quatre pattes, regardait sous son lit. Elle hurlait, voyant le voleur. « Attrapez-le !» Dressée sur son matelas, une main sur la hanche, l'autre, posée de façon imaginaire sur une canne qui l'aurait soutenue, cette forte fille clamait, avec la voix de Danton. « Si j'ai perdu ma raison, je continuerai jusqu'à ce que je perde ma folie, bois de lit. » C'était une ancienne sage-femme. Ses derniers accouchements furent des catastrophes. Cette autre fait des pointes. Elle semble s'apprêter à tournoyer, mais elle ne tournoie pas. Elle m'a repéré. « Tiens, un nouveau docteur !»« C'est saint Antoine qui nous l'envoie. Vive Antoine et ses petits !»« Allez vous coucher !»« J'attends mon mari !» Tout haut, celle-ci calcule. 33 multiplié par 1 600 000 donne 247 plus 9, 1 100 000 milliards. Quand elle ne calcule pas, elle a mal à l'estomac. Contre son lit à terre, une vieille est étendue. Depuis 16 ans, elle refuse d'entrer sous des draps. C'est que l'évêque de son diocèse l'y attend. Elle ne dormait pas. Et avec sa robe violette encore, et tous ses boutons. Une unijambiste s'en va sautillant. C'est une épileptique. La nuit dernière, elle faillit s'étouffer avec son oreiller. Le coup est classique. Il en meurt plusieurs par mois de la sorte. Une claque retentit. Madame Marie, sans raison, vient d'assommer la calculatrice. « Je vous mettrai la camisole !» dit la sœur. Madame Marie, en matière de moquerie, imite sa victime. « 33, 240, 10 milliards, brr, brr, brr !» Plusieurs sont camisolés et attachés sur le lit. Si elles avaient la force surhumaine de se remettre sur pied, elles marcheraient, le lit fixé au dos, elles écument. L'horreur est au milieu de la salle. C'est un baquet, et il s'en chasse d'eau encore. Le baquet ne chôme pas. 5 ou 6 folles sont autour, et s'y disputent une urgente priorité. Dans une dernière bagarre, le baquet est renversé. Pieds nus, elles continuent de mener là-dedans leur farandole. C'est le cancan du tout à l'égout. 2 heures du matin. Une cour. Nos pas résonnent sur les dalles. Soudain, sortant comme du mur, une voix. « Monsieur le docteur, monsieur le docteur !» C'était la voix de la petite d'avant-hier, dis-je. Voici le fait. La petite d'avant-hier a 15 ans. Elle aimait le bal, le soleil, les mots tendres. C'était inadmissible. Quand ses parents sortaient, ils l'enfermaient. L'enfant passait par la fenêtre. Les parents trouvèrent plus commode de charger autrui de la surveillance. Ils l'amenèrent dans cette maison de fous. On la garda. « Cette jeune fille n'est pas folle, » m'expliquait le docteur l'autre matin. « Elle a besoin d'être tenue de près, c'est tout. »« Pourquoi est-elle là? Enfin, elle sortira bientôt. »« Je m'évaderai, monsieur le docteur, je vous le dis. Je ne peux pas vivre avec toutes ces folles. » Elle s'évada hier. On la rattrapa dans les terrains maraîchers de l'asile. On l'a mis en cellule. Ce matin, je l'avais vue derrière ses barreaux de fer. Elle me montra sa caisse cercueil, garnie de paille. « Je pourrai jamais coucher là ce soir, j'aurai trop peur. Faites-moi sortir. Mon père ne peut pas avoir voulu cela. J'ai toujours eu des draps. Suis-je une criminelle ?» C'est elle qui, d'une voix apeurée, entendant nos pas dans la nuit, appelait. « Monsieur le docteur. Monsieur le docteur !» On se dirigea vers la cellule. Un volet plein avait été appliqué devant les grilles. « Mon père n'a pas voulu cela. J'ai trop peur. Allez chercher mon père !» suppliait l'enfant. On se regarda. Mais nous n'avions pas les clés des cachots.